VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est midi à Kinshasa. Bonjour à tous. La Somalie a lancé dimanche un message d'apaisement au Kenya en rappelant les liens forts unissant les deux pays au lendemain de la décision du gouvernement kenya de rappeler son ambassadeur à Mogadiscio pour consultation, cela en raison d'un désaccord sur une zone maritime disputée. Nairobi disait vouloir protester contre la décision du gouvernement somalien de mettre aux enchères des gisements pétrolifères et gaziers dans une zone maritime entre les deux pays lors d'une conférence le 7 février dernier à Londres, une accusation récusée dimanche par les autorités somaliennes. Premier tête-à-tête, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, dimanche à Kinshasa. Le nouveau président de la République démocratique du Congo a échangé pendant plusieurs heures avec son prédécesseur au moment où est attendue la nomination d'un premier ministre qui sera issu de la majorité parlementaire détenue par le clan de Joseph Kabila. Le point tout de suite avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire dans la capitale congolaise.
Rien n'a officiellement filtré de ces 4 heures d'entretien entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Mais de nombreuses sources renseignent que les deux personnalités ont notamment discuté, d'abord en tête à tête, puis avec leurs collaborateurs respectifs, de la nomination prochaine d'un premier ministre et de la composition du futur gouvernement. Ces discussions étaient précédées d'un repas qu'ils ont pris ensemble. Il s'agit de la première rencontre officielle entre le président de la République Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila depuis leur remise et reprise le 25 janvier dernier. Félix Tshisekedi doit dans les prochains jours nommer un premier ministre issu de la majorité parlementaire qui est sous l'autorité de Joseph Kabila. Les deux personnalités vont vraisemblablement cheminer ensemble durant ce quinquennat à travers une coalition de leurs forces politiques respectives. Pendant ce temps, Martin Fayulu, qui conteste toujours l'élection de Félix Tshisekedi et réclame la vérité des urnes, est en tournée à l'est de la RDC. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
5 civils ont été tués dans des combats entre forces gouvernementales et le groupe djihadiste Boko Haram. Dans le nord-est du Nigeria, ont annoncé dimanche des habitants et des membres d'une milice. Bagassi Koura.
Les civils ont été tués samedi dans la ville de Bouniyadi, dans l'état de Yobe, au cours d'une attaque au cours de laquelle 5 djihadistes et 4 soldats ont été tués selon l'armée. À peu près au même moment, des attaques ont été lancées contre des positions militaires à Gajibo et à Gajogana, au nord de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno, selon des sources sécuritaires dans la ville. Un habitant de Bouniyadi a déclaré que des combats avaient duré plus de 2 heures. Un projectile a touché une maison proche, tuant les 5 occupants qui s'y trouvaient. 11 personnes ont aussi été blessées par des balles perdues et des shrapnels, selon ce témoin. Un membre de la milice civile qui collabore avec les forces gouvernementales a confirmé ces informations, précisant que les membres de Boko Haram avaient été tués après cette attaque. La base de Bouniyadi, située près de la frontière avec l'état de Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste, avait déjà été visée par une attaque islamiste en janvier, lorsque 4 soldats avaient été tués. Les combattants de Boko Haram avaient été repoussés après l'intervention d'un soutien aérien.
Des milliers de Libyens ont célébré hier dimanche le 8e anniversaire de la révolution qui a mis fin en 2011 à 42 ans de pouvoir de Muammar Kadhafi. Eric Manirakiza.
À Tripoli, sur la place des martyrs, jadis appelée Place Verte, où Kadhafi aimait prononcer ses discours, des milliers de Libyens se sont rassemblés arborant le drapeau national rouge, vert et noir. Au programme, feux d'artifice, chansons diffusées via des haut-parleurs et concerts de musique et chants traditionnels. À Benghazi, deuxième ville libyenne, berceau de la révolution, les célébrations ont été plus timides, selon l'AFP. Seulement quelques dizaines de personnes se sont rassemblées près du tribunal de Benghazi où avaient commencé les premières manifestations anti-Kadhafi en 2011. Ce lieu, devenu symbole de la révolution, est aujourd'hui en ruine, portant les séquelles de la guerre contre les groupes djihadistes lancée en 2014. Depuis 2011, le pays est déchiré par des luttes d'influence entre les nombreuses milices et tribus pour contrôler les ressources du pays. Sur le plan politique, deux autorités se disputent le pouvoir. Le gouvernement d'union nationale GNA, établi fin 2015 par un accord parrainé par l'ONU, est basé à Tripoli, tandis qu'une autorité rivale s'est installée dans l'Est, contrôlée par l'armée nationale libyenne ANL, autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar.
Direction la Côte d'Ivoire pour le dossier de ce journal. Les écoles sont paralysées depuis près d'un mois en raison d'un mot d'ordre de grève des enseignants. Ces derniers exigent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. À Abidjan, retrouvons notre correspondant Georges Ibrahim Toukara.
L'école ivoirienne est une nouvelle fois dans la tourmente. Depuis le 22 janvier, les enseignants du public ont rangé les craies. Ils sont en grève et demandent notamment une revalorisation des indemnités de logement, la suppression des cours du mercredi dans le primaire et le relèvement des primes des examens. Paco Matabi est le porte-parole de la COSEFSI, la coalition secteur éducation-formation, le syndicat qui a initié cette grève.
C'est parce que nous n'avons pas eu d'interlocuteur depuis 3 ans. Depuis 3 ans, notamment le 4 novembre 2016, nous avons adressé une correspondance à Madame le ministre pour lui demander une simple audience censée discuter de nos revendications qui font objet de palabres aujourd'hui. Elle n'a pas répondu. Le 2 novembre 2016, c'est-à-dire une année plus tard, nous l'avons relancé. Elle n'a pas répondu. On a rencontré le directeur de cabinet. Il a dit que c'est vrai qu'ils reçoivent les courriers, mais quand ils voient, ils regardent l'objet, voilà, ils jugent de l'opportunité de nous recevoir ou de ne pas nous recevoir.
Vendredi dernier, face au syndicat d'enseignants, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a appelé au respect de la trêve sociale conclue en 2017.
Je suis très attristé parce que nos pauvres enfants ne vont pas à l'école. Il a été conclu un accord de trêve sociale. Le gouvernement, depuis 2018 jusqu'aujourd'hui, respecte à la lettre l'engagement qu'il a pris vis-à-vis du monde du travail, vis-à-vis des enseignants.
Paco Matabi de la COSEFSI.
Nous ne sommes pas concernés par cette trêve sociale. Avant la signature de la trêve sociale le 17 août 2017, nous avions déjà donné de la voix pour dénoncer ce qui se faisait. Donc pour nous, cette trêve sociale ne veut absolument rien dire.
Pour Babili Dambélé, président du CIDP, le Congrès ivoirien pour le développement et la paix, tout cela aurait pu être évité si le dialogue avait été privilégié.
Je pense que ce qu'il a totalement manqué aux dirigeants, le dialogue. Ceci est consécutif à plusieurs promesses faites par le pouvoir aux enseignants, aux fonctionnaires. Promesses non tenues. Encore une fois, nous interpellons l'État de Côte d'Ivoire afin qu'il prenne la responsabilité de convoquer les États généraux pour évoquer tous les problèmes de la Côte d'Ivoire, y compris le cas des enseignants, des fonctionnaires.
Près d'un mois sans cours, les grandes victimes de cette grève sont évidemment les élèves.
Koufana Nguessan Junior. Je suis un élève de la première série, c'est Simon Neve Gbagbo. Cette grève va nous pénaliser parce qu'on est en retard sur le programme. Il y a l'examen qui est là. Et puis nous, on est en retard sur les autres écoles, les écoles privées, tout ça. Et nous, ça ne nous arrange pas.
Avec Soro, Kandi Modeste, cette grève va nous pénaliser. Si vous pouvez parler au professeur, on va répondre les cours.
Les enseignants se disent déterminés à aller jusqu'à une année blanche s'ils n'ont pas gain de cause. Georges Ibrahim Toukara, Abidjan, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Corée du Nord est face à un tournant considérable et historique, estime aujourd'hui ses médias d'État, à une semaine du second sommet entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. Cette rencontre, qui fera suite à celle de juin à Singapour, est prévue à Hanoï au Vietnam les 27 et 28 février. Lors du premier sommet, les deux hommes avaient signé une déclaration très vague en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Aucun progrès n'a été réalisé depuis, les deux parties n'étant pas d'accord sur le sens exact de cet engagement. Et l'une des interrogations est de savoir si les Américains pourraient proposer une levée de certaines sanctions pesant sur le Nord en échange de mesures concrètes vers la dénucléarisation. Le ministre allemand des Affaires étrangères a jugé extrêmement difficile d'organiser à ce stade un rapatriement des djihadistes européens du groupe État islamique retenu en Syrie, comme l'exige Donald Trump. Le sujet doit être évoqué ce lundi par les ministres européens des Affaires étrangères qui se rencontrent pour discuter entre autres de la situation en Syrie, en particulier les derniers développements intervenus sur le terrain selon l'ordre du jour de la réunion. Le président américain Donald Trump a exhorté dimanche les Européens à reprendre leurs centaines de ressortissants détenus en Syrie après avoir rejoint les rangs de l'État islamique. Et puis le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, en visite au Pakistan, devrait recevoir aujourd'hui la plus haute décoration civile du pays avant de poursuivre sa tournée asiatique vers l'Inde et la Chine. Le prince surnommé MBS avait été accueilli dimanche soir avec les honneurs à sa descente d'avion à Islamabad par le premier ministre Imran Khan. L'image du prince avait été fortement ternie par le scandale provoqué par l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en octobre dans l'enceinte du consulat. consulat saoudien d'Istanbul en Turquie. Jean-Roger Billon, ce sera tout pour cette édition. Le prochain journal, dans 50 minutes, vous retrouverez Henri Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. J'ai longtemps